Le cinéma, un monde aux horizons multiples et variés, où bon et mauvais se côtoient sans arrêt. Ensemble, cinéma, séries, jeux vidéo, livres, BD, comics forment un vaste univers. Découvrez-en le bon comme le mauvais avec de l'actu, des avis, des suggestions, des focus, nombre de rubriques qui sont au programme de Showtime. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Showtime, l'épisode 2 de la saison 2. Vous pouvez écouter l'émission autant sur Radio Larzac que sur Radio Sainte-Afrique. Et si vous venez à la louper, c'est pas grave, elle est disponible sur www.radiolarzac.org. Au programme de ce Showtime du mois de novembre, l'actu du mois, mon avis sur Ordures, les suggestions séries de la rentrée de mon consultant série Damien et un petit focus sur la nouvelle série Gotham. Avant d'entrer dans le vif de l'épisode, musique avec Amaranth, Drop Dead Cynical.
Feed on c'était Amaranth, Drop Dead Cynical, avec, entre autres, la superbe chanteuse Elise Reed. On peut l'entendre dans nombre de groupes en featuring en ce moment, entre autres Kaamelott sur le titre Sacrimony, Angel of Afterlife. Une musique que je recommande et que j'avais passée l'an dernier dans Showtime et que j'apprécie bien. Enfin voilà, si vous avez l'occasion, essayez Amaranth. Allez, un petit peu d'actu. L'actu du mois. C'est pour moi une des grosses nouvelles du mois. Twin Peaks revient. La célèbre série de David Lynch et Mark Frost nous revient enfin. 25 ans après la conclusion de la série, enfin des nouvelles d'une suite. La série s'est conclue après deux saisons qui ont laissé nombre de fans sur leur faim, dont moi. Twin Peaks nous reviendra donc en 2016 pour une troisième saison de 9 épisodes. Cette très attendue saison sera diffusée sur la chaîne US Showtime. Pour l'occasion, David Lynch et Mark Frost, les créateurs de la série, reviennent. Les deux messieurs seront à l'écriture des 9 épisodes de cette troisième saison. Saison qui sera entièrement réalisée par David Lynch himself. Et c'est pas fini! Avant de découvrir cette saison 3 qui prendra place 25 ans après la série originale, un livre nous arrivera. Il sera écrit par Mark Frost et devrait faire le pont entre la fin donnée à la série en 1991 et le début de la saison 3. Et une saison 6 pour The Walking Dead. La série à succès de AMC n'avait pas encore démarré sa cinquième saison qu'une sixième était d'ores et déjà annoncée. C'est dire la confiance que porte AMC en ce Walking Dead. Pour donner un aperçu de ce succès, sachez que le season premier de la saison 4, un season premier, c'est le premier épisode d'une saison. Je disais donc, le season premier de la saison 4 a attiré, en moyenne, 16,1 millions de téléspectateurs. Et la saison 4 a quant à elle attiré 13,3 millions de spectateurs en gros. Ce n'est pas rien. Parlons pas du season premier de la saison 5 qui a réuni 17,3 millions de spectateurs, 1,2 million de plus que le season premier de la saison 4. C'est pas rien. De quoi encourager l'arrivée du spin-off, série dérivée en français, de The Walking Dead. On apprend que l'épisode pilote du spin-off sera dirigé par le réalisateur oscarisé Adam Davidson. Oscarisé pour son court-métrage The Lunch Date, le monsieur est connu du monde des séries. En effet, il a travaillé sur Fringe, Community, Hell's on Wheels, pour ne citer qu'elles. En bref, tout pour dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler du phénomène Walking Dead. Et toujours côté comics, grand boom pour Marvel au cinéma. Le 23 octobre dernier, la Maison des Idées a dévoilé la première bande-annonce de son prochain film à venir, Avengers Age of Ultron de Joss Whedon. Bande-annonce que voici.
Whosoever, be he worthy, you shall have the power. Whatever, man, it's a trick.
No, it is much more than that, my friend.
If I lift it, do I get to rule Asgard?
Yes, of course.
I will be fair, but firmly cruel. Be right back.
Are you even pulling?
Are you on my team?
Just represent, pull.
All right, let's go.
Come on, Cap.
Nothing.
Oh, no, no, that's not a question I need answered.
The handle's imprinted. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation.
Yes, well, that's a very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy.
How could you be worthy? You're all puppets, tangled in strings.
Strings.
It's the end. The end of the path I started us on.
Nothing lasts forever.
Comme vous pouvez vous en douter, il y aura du beau monde au générique de ce Age of Ultron. En plus, il y aurait Idris Elba aka Heimdall et Tom Hiddleston aka Loki au crédit. Si ça, c'est pas du super casting 5 étoiles. Et j'ai pas fini! Toujours du côté Marvel de la Force, l'annonce des films de Marvel Studios à venir! Près d'une semaine après la sortie de la bande-annonce de Avengers Age of Ultron, Marvel Studios a dévoilé ses plans concernant la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Pour les néophytes, j'explique un peu. Le Marvel Cinematic Universe de Marvel Studios se déroule en phases. Prenez-les comme les actes d'une pièce de théâtre. Si les phases sont les actes, les films en sont les divers chapitres. Pour ce troisième grand acte des aventures des super-héros Marvel au cinéma, nous aurons donc Captain America Civil War le 6 mai 2016, Doctor Strange le 4 novembre 2016 avec, selon les dernières rumeurs, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, le sorcier suprême de l'univers Marvel. Chose à prendre avec des pincettes. Ensuite, nous viendra Les Guardians of the Galaxy 2, le 5 mai 2017, Thor Ragnarok, le 28 juillet 2017, Black Panther, le 3 novembre 2017, avec Chadwick Boseman dans le rôle titre. Le Black Panther ferait au passage sa première apparition dans le Marvel Cinematic Universe lors de Captain America Civil War. Viens encore après Captain Marvel, le 6 juillet 2018, un film sur un personnage féminin. C'est bien ça, les personnages féminins au cinéma. Plus de femmes en premier rôle. Ensuite, Inhumans, le 2 novembre 2018. Et pour clore cette phase 3, Avengers Infinity Part 1, le 4 mai 2018. Et Avengers Infinity War, pardon, c'est Infinity War. Je ne veux pas me faire taper dessus après, dans la rue ou quoi que ce soit. C'est Infinity War. Donc, il y aura la partie 1, le 4 mai 2018, et la partie 2 de Avengers Infinity War, le 3 mai 2019. Soit pas moins de 9 films, 9 chapitres pour cette phase 3. On n'a pas fini de manger du super-héros au cinéma. J'espère que certains d'entre eux renouvelleront le genre super-héroïque, sinon on va droit vers l'overdose entre Marvel et DC. Et tant qu'à y être, c'est moi qui vais vous gaver un peu aujourd'hui avec les super-héros. Voici de quoi donner la couleur sur ce Captain America Civil War. Dans l'univers comics, Civil War, pour faire simple, c'est la confrontation entre Iron Man et Captain America. Je dis bien pour faire simple, l'histoire est bien plus complexe que ça. Mais bref, tout pour dire que l'annonce de la présence de Robert Downey Jr. aka Iron Man dans le prochain Captain America laisse à penser que le Marvel Cinematic Universe se dirige vers sa propre Civil War. Si ça vient à être le cas, ça va bien m'amuser. Je m'explique. Pour rappel, Captain America Civil War est prévu pour une sortie en 2016. Et un certain Batman v Superman est prévu pour la même année. Batman v Superman. Dedans, on aura droit à une petite confrontation entre la chauve-souris et l'homme d'acier. Simple coïncidence que Marvel décide de se faire opposer Iron Man et Captain America? Ou bien est-ce un duel entre Marvel et DC qui s'annonce? Attendons d'en savoir plus avant de stipuler, mais tout laisse à y penser. J'en parlais brièvement l'émission du mois passé. Resident Evil 6 de Paul W.S. Anderson n'est prévu que pour une arrivée en 2016 dans les salles. Tant mieux. Il faut le dire, la série des Resident Evil live au cinéma ne brille pas par ses qualités. Bien au contraire. Heureusement, le sixième opus est annoncé comme le dernier de ce beau massacre de Resident Evil au cinéma. Malheureusement. Enfin, c'est vite dit. On n'en sait pas grand plus, mais ouais. Il y aura une série Resident Evil. Une série qui serait inspirée de ces 10 films. À voir donc si le massacre se poursuivra sur le petit écran. Ghostbusters ! Ça fait un moment qu'on en entend parler de ce troisième opus des chasseurs de fantômes. Allait-il un jour nous arriver ? Y reverrions-nous les acteurs originaux ? Casting entièrement féminin ? Qui a la réalisation ? Que de questions. On avait des réponses partielles, mais jamais certaines. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Ce troisième opus sera un reboot avec un casting entièrement féminin. À la réalisation, nous aurons Paul Feig et Kathy DiPold sera à l'écriture. Reste à savoir ce qu'il en sera du casting. Et si oui ou non, des acteurs des premiers films reviendraient pour une petite apparition. Un peu de French touch dans l'actu du mois. C'est de l'actrice Léa Seydoux dont je vais vous parler. Après avoir fait chavirer le cœur de Adèle Exarchopoulos dans La vie d'Adèle, la belle s'apprête à faire s'enflammer le cœur de Daniel Craig. Ben, que c'est Daniel Craig ? Ben, c'est le dernier visage en date de Bond, James Bond. Et oui, Léa Seydoux est annoncée comme étant de la partie du 24e James Bond. Et elle en serait la ou une des James Bond girls. Ça fait toujours plaisir de voir des Français dans des productions hollywoodiennes. Il me tarde que l'on en sache plus. En espérant que Léa Seydoux fasse plus que les 3 minutes d'apparition de Omar Sy dans le dernier X-Men. Allez, petite interlude musicale avant d'aller voir ce que vaut Ordure. C'était I Miss the Misery de Alice Storm, un morceau que j'ai choisi car il plaît bien à ma sœur et j'avais envie de vous le faire partager. Donc, il est pour toi ce morceau, Chris, il passe à la radio aussi pour toi. Allez, la vie sur Ordure ou Filth. La vie sur... Ordure ou Filth est un film britannique de John S. Baird. Par chez nous, chose assez triste, il n'a pas eu droit à de sorties en salle. Il nous est arrivé directement dans les bacs le 24 septembre 2014. Au casting, nous trouvons James McAvoy, Jamie Bell, pour ne citer que. Voici le synopsis du film. Le sergent détective Bruce Robertson veut une promotion et son patron veut des résultats. Pas de problème pour Bruce. Quand un meurtre est perpétré, il prend le contrôle de la situation. Et quand il résoudra l'affaire, il gagnera la promotion. Mais la vie n'est pas aussi simple. Bruce est-il l'homme de la situation? Les réponses vont être tragiques, hilarantes et outrageantes. Ce synopsis résume bien le film. Et en plus, il donne un peu le ton. Avant d'aller plus loin dans cet avis, je dis stop aux âmes sensibles. Ordure va assez loin dans le trash. Excusez-moi, je vais être un peu cru sur l'instant. Détournement de mineurs, masturbation, sadomasochisme, drogue, harcèlement téléphonique. Je continue. Je pense que ce que je viens d'énoncer vous l'a fait comprendre. Ce film est à déconseiller aux plus jeunes. Encore, je trouve qu'ils sont gentils au dos du Ray Blue. Ils disent déconseiller au moins de 12 ans. Moi, si on veut, et encore. Pourquoi il n'y a pas de déconseiller au moins de 14 ans? Pourquoi passer de suite de 12 à 16? Dans ce cas, pourquoi ne pas passer de 16 à 20? Enfin bref, assez parlé de classification, parlons de ordure.
That make me then?
You're a policeman.
Christ.
Who taught you that technique? A friggin' cheese grater?
Scotland was such a uniquely successful race. This nation brought the world television, whiskey, and of course, me, Detective Sergeant Bruce Robertson.
Ordure, ou Filth en anglais, est adapté d'une nouvelle de Irvin Welsh, écrivain écossais qui a écrit aussi Trainspotting. Comme présenté dans le synopsis, on y suit Bruce Robertson, un policier qui est bercé par l'illusion que s'il obtient une promotion, il retrouvera sa femme Carol. Il va donc essayer d'obtenir cette dite promotion par tous les moyens. Dans le rôle principal, celui de Bruce Robertson, nous trouvons James McAvoy. James McAvoy, c'est le professeur Charles Xavier, jeune, dans les X-Men Le Commencement et Days of Future Past, ou c'est encore Wesley Gibson dans Wanted, Choisis ton destin. Dans un registre plus bon enfant, c'est Monsieur Tumus dans Le Premier Monde de Narnia. À ses côtés, nous trouvons nombre d'acteurs. Parmi eux, Jamie Bell, l'acteur qui a incarné Billy Elliot. Je ne cite que les deux noms qui devraient le plus vous parler à vous, auditeurs, car si je devais m'étendre sur le casting, il y en aurait pour des heures. Ils sont tous remarquables. Bon, en particulier James McAvoy qui signe ici une performance waouh, juste renversante. Il est juste génial. Il n'a pas volé les diverses récompenses qu'il a obtenues pour ce rôle, dont celle de meilleur acteur aux Empire Awards 2014.
The games are always being played.
That's everything you need to know about the guys you're after.
I never thought I'd see the day when I left a knocking shop with more spunk than I came in with.
Down the road I go.
Nobody plays the games like me. Down the road. You just have to be the best. And I usually am. Same rules apply.
What?
Sa performance à James McAvoy joue pour beaucoup dans le film de John S. Baird. Le long métrage peut paraître au début comique. Le personnage de Bruce est cash, trash, cynique, odieux, prétentieux. Et j'en passe des adjectifs qui pourraient le définir. Tout pour dire que si le film paraît comme une comédie au premier abord, il n'en est rien. C'est une descente aux enfers pour Bruce. Au début, il semble tout gérer, tout lui réussit. Son plan pour être celui qui sera promu inspecteur suit son cours. Si seulement il savait ce qui va lui arriver ensuite, tout lui échappe petit à petit. Et petit à petit, il se trouve pris au piège de sa folie. Et oui, notre personnage est fou. Enfin, je ne vais pas trop en dire. Si vous venez à vous intéresser au film, vous avez dû le lire un moment ou un autre que le personnage est fou. Donc, je n'ai pas balancé un trop gros spoil. Seulement, c'est justement cette folie qui rend le personnage de Bruce attachant. Car c'est lors de certains moments de folie qu'il se montrera être humain. Comment expliquer sans trop en révéler Parfois, Bruce aura des crises de folie. Si on veut, lors de ces moments, un élément le ramènera à la raison. Et c'est justement ces moments qui rendent le personnage humain et attachant. Sans ça, il n'y a pas à dire, le gars est le parfait connard. But honey, you're my best hope, and who else can look at the state you're in, Bruce.
I'm worried about you, Bruce. Come on,
Silver Lady. I used to be a good person.
Sir, you're gonna hit me, Bruce!
I think there's something seriously wrong with me.
Have you been to see a doctor?
Have you been since our last consultation? No problems, I presume.
No more cocaine and chips suppers for Bruce, eh?
Justement, cette descente aux enfers est sertie d'une bande originale juste excellente. Au début, la musique, enfin, le thème de Bruce se fait assez calme. Quoique calme. Cornemuse, batterie et guitare électrique. Dit comme ça, ça ressemble à un beau combo. Une belle cacophonie. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai partager le thème de Bruce en conclusion de cette avis. Vous entendrez, il rend plutôt bien. Enfin bref, je disais. Ah oui, au début, la musique se fait assez calme. Et au fur et à mesure que le film avance, que Bruce enfonce, elle devient plus forte, plus agressive. La cornemuse qui introduit la musique passe en arrière-plan. Guitare électrique et batterie sont mises en avant. Et ça, ce n'est que le thème de Bruce. On retrouve diverses musiques dans le film. Et elles sonnent juste. Elles tombent au bon moment et aident à entrer dans le délire de ordure. Car oui, ordure est un gros délire qu'il faut savoir savourer comme il est. Une descente aux enfers dans la psyché d'un homme torturé.
Could go either way. I find all this just a little bit sorted.
What made you join the force, Bruce?
Police oppression, brother.
And you wanted to stamp it out from the inside?
No, I wanted to be a part of it.
Can I just have a glass of water?
Not at all. I've got something else in mind for you.
Récapitulons. En plus, la performance de James McAvoy, une bande originale qui sonne juste, les musiques de Clint Mansell sont entraînantes, en particulier celle de Bruce Robertson. Et un début comique qui tourne au tragique. En négatif, je vais être franc, je n'ai rien trouvé à redire à ce film. En conclusion, il est rare que j'accroche autant à un film. C'est vous dire, j'ai accroché dès la bande-annonce. Je jetais les dernières sorties et là, je vois Ordure avec James McAvoy. Ok, voyons voir. Et là, une bande-annonce. Mais quelle bande-annonce ! J'ai tout de suite adhéré. Vous avez pu l'entendre de manière fragmentée tout du long de cet avis. J'espère que ça vous aura tout autant donné envie que moi. Ou du moins, j'espère que cet avis vous aura donné envie. Vraiment, ce film est un coup de cœur. Au début, il peut paraître un peu graveleux sur les bords. Mais c'est une véritable tragédie qui se déroule sous nos yeux. Comment ne pas prendre Bruce en affection ? Je ne vais pas trop en dire plus. Je ne tiens pas à vous spoiler tout le film. Mais franchement, si vous en avez l'occasion, regardez-le. Regardez Ordure. Si vous voulez un film qui a de la réflexion derrière et pas d'action, Ordure est fait pour vous. Après, il faut juste adhérer au délire. Pour vous aider à situer un peu mieux mes avis cette saison, je donne des notes sur 5. Et c'est vous dire, je donne un 5 sur 5 à ce Ordure. Mais comme le parfait n'existe pas, je vais être plutôt raisonnable et lui donner un 4,5 sur 5. Même si le film vaut un 5 sur 5. Car ici, le parfait a tout d'une ordure.
Thank you.
B.S. Bruce Robertson de Clint Mansell, le thème dont je vous parlais tout du long de la vie de Ordure. J'espère qu'il vous aura plu. Allez, c'est parti pour les suggestions de la rentrée US des séries de l'ami Dada. Les suggestions. Donc comprenez-le bien, là c'est mon consultant série Damien qui a écrit ses suggestions pour moi. Donc c'est moi qui parle, mais c'est lui qui parle en fond. Ça veut rien dire, mais je pense que vous me comprenez quand même. Alors, les États-Unis ont fait leur entrée série et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans les nouveautés, que l'on ne verra jamais en France pour la plupart, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les comédies romantiques, « Oh, I Met Your Mother » ou encore si vous êtes obsédé par l'alphabet, « A to Z » est une série faite pour vous. « A to Z » est une comédie de Ben Quinn. Andrew et Zelda vont sortir ensemble pendant 8 mois, 3 semaines, 5 jours et 1 heure. Ce programme de télévision diffusé sur NBC est le récit détaillé de leur histoire de A à Z. Une série originale dont on connaît la date de péremption, dans 8 mois, 3 semaines, 5 jours et 1 heure. Et un couple vedette très attachant. Ne perdez pas de temps et foncez jusqu'à la lettre Z. Si vous avez un petit faible pour les soap-opéras, les scénarios improbables et les telenovelas, Jane the Virgin pourrait vous correspondre. Jane the Virgin est une comédie romantique de Jenny Snyder, série adaptée d'une telenovela vénézuélienne et diffusée sur The CW. Je dis CW parce que CW, j'y suis arrivé, je l'ai dit d'un coup, pardon. Alors, Jane, une jeune femme très pieuse, encore vierge, sur le point de se fiancer, se retrouve accidentellement inséminée artificiellement après une suite d'événements improbables. Elle porte l'enfant d'un couple dont le mari, suite à un cancer des testicules, n'avait plus qu'un seul espoir d'être le père naturel de ses enfants. Jane se trouve alors face à un dilemme. Devenir leur mère porteuse, garder l'enfant puis l'élever comme le sien, ou avorter. Une série au concept plus qu'original qui peut plaire aux fans d'Ugly Betty, par exemple. Si vous aimez les séries médicales et si vous ne craignez pas de voir un enfant ou un adolescent atteint d'une grave maladie, je vous conseille Red Band Society. Red Band Society est une comédie dramatique de Margaret Nagel diffusée sur Fox et adaptée de la série espagnole Les Bracelets Rouges. Des enfants et des adolescents se lient d'amitié dans un hôpital où ils sont tous patients. Ensemble, ils tentent de fuir la triste réalité pour se créer leur propre monde avec leur propre code, tandis que le personnel soignant fait de son mieux pour leur apporter un peu de bonheur au quotidien. Charlie, dans le coma, depuis plusieurs mois, assiste quant à lui, impuissant, à l'agitation qui l'entoure. Il ne voit rien, mais il entend tout. Une série touchante, pleine de bons sentiments, traitant des troubles alimentaires, de cancer ou encore d'amputation, avec une infirmière Jackson très en forme et un docteur agréable à regarder, Dave Hannibal, le Justin Walker de Brothers and Sisters. Si vous aimez les séries policières et les séries fantastiques, et si vous êtes curieux de voir ce qu'un mélange des deux genres pourrait donner à l'écran, Forever est là pour assouvir cette curiosité. Forever est une série policière et fantastique de Matthew Miller. Série diffusée sur ABC. Le docteur Henry Morgan, un médecin légiste discret mais brillant, étudie la mort pour une raison bien précise. Il est immortel. Depuis 2 siècles, il parcourt le monde et cherche un remède à sa condition qu'il considère comme une malédiction. Aidé par son meilleur ami, un vieux chauffeur de taxi roublard. Après un accident de métro au cours duquel il a encore perdu la vie, il fait la rencontre de la détective Jo Martinez. Une veuve au caractère bien trempé avec qui il ne va pas tarder à faire équipe pour résoudre d'épineuses affaires criminelles. Une série sympathique pour quiconque aime le genre policier. Un médecin légiste attachant, un film rouge avec du potentiel, voilà ce qui pourrait vous pousser à regarder cette nouvelle série. Si le nom de Sonda Rhimes ne vous est pas inconnu, si vous voulez du thriller qui vous rend addictif, j'ai le privilège de vous présenter How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder est un thriller de Sonda Rhimes, également à la tête de Grey's Anatomy et Scandal. La série raconte l'histoire d'Annalise Keating, professeur de droit et avocate renommée à la tête de son propre cabinet. Chaque année, quelques-uns de ses étudiants ont le privilège de travailler dans son cabinet. Au début de la saison, 5 étudiants aux caractères différents sont alors choisis. Asher, Lowell, Michaela, Connor et Wes. Quelques mois plus tard, ces derniers sont impliqués dans un meurtre. Le charisme d'Annalise Keating et les épisodes ponctués de flash-forward haletants font que l'on peut avoir confiance en Sondheim Wims pour nous rendre accro à cette série de ABC qui ira loin, je l'espère. Et pour vous, auditeurs, une petite précision, les flash-forward, c'est des flashs en avant, c'est-à-dire par exemple, là je vous parle et c'est comme si d'un coup je vous mettais un extrait du focus à venir. Ça serait un flash-forward à la radio. Ça vous donne une petite idée, j'espère que vous l'aurez compris. Donc, pour conclure ces suggestions, et c'est pas fini pour aujourd'hui. Pourtant, je pourrais vous conseiller plein d'autres nouveautés comme My With Me, Gotham, Scorpion, Stalker, Glue, Respond, Happyland ou The Effer. Mais je risquerais de vous noyer d'informations et de vous couper de toute vie sociale pour de bon. Et maintenant, c'est Vincent qui reprend les commandes en parlant pour lui, plus pour Damien. Car c'est moi qui vais vous couper de toute vie sociale, car c'est moi qui vais vous parler de Gotham. Focus sur Gotham est une série américaine créée par Bruno Heller. Le nom vous dit rien ? Vous voyez Mentaliste ? La série avec Simon Baker qui incarne Patrick Jane ? Mentaliste a été créé par Bruno Heller. Voilà, donc c'est le papa des deux séries. Bruno Heller est le papa de Gotham et de Mentaliste. Gotham est diffusé depuis le 22 septembre aux US et devrait nous arriver en 2015 par chez nous. Le synopsis. Tout le monde connaît le commissaire Gordon, valeureux adversaire des plus dangereux criminels, un homme dont la réputation rime avec loi et ordre. Mais que sait-on de son histoire ? De son ascension dans une institution corrompue qui gangrène une ville comme Gotham, terrain fertile des méchants les plus emblématiques. Comment sont nées ces figures du crime, ces personnages hors du commun que sont Catwoman, le Pingouin, l'Homme Mystère, Double-Face et le Joker ? Voilà à peu près le synopsis que l'on peut trouver sur le site officiel de la série. Au casting, nous trouvons du beau monde. Ben McKenzie et le jeune Jim Gordon, Donald Logg et Harvey Bullock, et Robin Lord Taylor et Oswald Cobblepot. Après, c'est une série, les acteurs sont légion. Mais ici, je vous ai donné les trois principaux personnages. Car ce sont ceux qui ont le plus de temps d'apparition à l'écran et ce sont pour moi les plus intéressants dans Gotham. Gotham, une série. Une origin story. Comprenez par là que c'est une histoire qui raconte les origines de quelque chose. I love this city. And I see it going to hell. Sometimes I think this place is cursed. But I won't let it fall apart without a fight.
Citizens of Gotham, we will not. We cannot. Let these killers and these robbers and these rapists and these thugs win. Not on my watch.
Lors de son annonce, Gotham avait tout l'air d'être une énième origin story du Batman. Ça commence par le meurtre des parents de Bruce Wayne, le futur chevalier noir de Gotham City. Comment ne pas en faire le rapprochement ? Mais non ! On nous annonce durant le développement du show que ça sera les débuts de Jim Gordon. Pourquoi pas ? Et en plus, il devra élucider le meurtre de Martha et Thomas Wayne. Le fil rouge est annoncé. De quoi donner encore plus envie. Bruce Wayne ne sera pas un personnage majeur de la série. Oh là là, vraiment intéressant tout ça. Si l'on pouvait craindre un Smallville version Gotham, tout risque en est écarté désormais.
There is a war coming. A terrible war. There will be chaos. Rivers of blood in the streets, I know it.
It's my new partner, Jim Gordon.
You have a little danger in your eye. I wonder what you plan to do with that.
You killed people before?
That was war.
This is war! We're at war!
What's your name?
My name's Bruce Wayne.
I promise you,
I will find the man who did this.
Que croyez-vous? Finalement, Bruce Wayne aura un rôle à jouer dans Gotham. Damned! Bon, ne désespérons pas. On va peut-être avoir droit à une bonne surprise. 24 septembre 2014. Le premier épisode sort aux US. Je l'attendais, cette nouveauté. Alors, ne nous faisons pas prier. Je visionne le dit épisode, sobrement intitulé « Pilote ». Voyons voir. Oh, Selina, tu es toute mimi. Une énième version du meurtre des parents de Bruce Wayne. Ouais, Gordon sans la moustache. Bruce Wayne. Belloc! Pas vilaine, Barbara. Fishmoney, personnage inventé pour l'occasion. Oui, pourquoi pas. Tiens, cet acteur, il a joué dans Mentalist. Bruce Wayne. Oh, le futur pingouin, il est excellent. Wow, trop de clins d'œil pour le connaisseur. De le mystère, de la poison à vie, du Joker, et j'en passe. Oh, je me perds dans cet épisode. Et l'intrigue du meurtre des parents de Bruce Wayne est déjà expédiée pour le moment. Mais quoi? Parlons pas des interprétations des acteurs vraiment en dents de scie. Y a du bon comme du mauvais. Cameron Bicondova, la future Catwoman, Robin Lord Taylor, le futur Pergouin et Donald Logue en Harvey Bullock sortent leur épingle du jeu. Ben McKenzie, bien que son personnage de Jim Gordon est intéressant et représentatif du en dents de scie pour moi, son jeu est bon comme mauvais. Saluons quand même le travail effectué sur Gotham en elle-même. La ville a une véritable identité qui lui est propre. On retrouve cette atmosphère noire qui fait partie de son identité dans les comics. La Gotham que l'on voit à l'écran est sombre, sale. On a l'impression que quiconque y réside est pourri de l'intérieur. Ça donne pas vraiment envie d'y vivre.
I'm learning to conquer fear.
Fear doesn't need conquering. Fear tells you where the edge is.
Somebody has to take over. It might as well be me.
Gotham is on a knife edge.
This is not a city for nice guys.
Stop or I'll shoot!
However dark and scary the world might be right now, there will be light. There will be light. Bruce.
Donc oui, malgré un peu trop de Bruce Wayne, j'ai quand même donné sa chance à la suite de la série. Et j'en ressors avec un meilleur avis. Gordon est le héros, Bruce est là, mais il est second. Normal, on parle plus de l'enquête du meurtre de ses parents. Quoique, certains personnages prennent plus d'ampleur. Selina Kyle, la future Catwoman, est au centre du second épisode, par exemple. Ça fait pas de mal de la découvrir un peu. Etc, etc, etc. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Après, il est un peu tôt pour vraiment juger la série dans son intégralité. D'ici le 22e épisode de cette première saison, ils auront peut-être trouvé leur rythme de croisière et une identité qui leur est propre. c'était le Batman Theme de Danny Elfman. J'espère que cette petite présentation de Gotham vous aura intrigué et vous fera vous essayer à la série. Regardez au moins les deux premiers épisodes pour vous faire un petit avis sur le tout. Car oui, le premier épisode n'est vraiment pas représentatif de ce que le show peut offrir. Après, c'est une série policière, on ne peut plus correct. La patte du créateur de Mentalist se fait ressentir et ça tire un peu le show vers le haut. Et voilà, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit à dire, suggestions, avis pour la suite, n'hésitez pas à me le faire savoir. En vous remerciant pour m'avoir écouté, et un merci à Nico à la technique et un grand merci à Radio Larzac pour l'enregistrement, je vous dis au mois prochain.